Ma chance au départ avec Philippe, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est que ce garçon est une merveille de musique. Tout est musique, tout en lui est musique. Son corps est vibratoire, son intelligence est vibratoire, tout est musique. Il est incapable de faire un exercice sans que ce soit musical. Donc c'est déjà tellement intelligent que bon, c'est déjà presque placé. Après, c'est vraiment travailler ça avec précision, au millimètre près, parce que c'est incroyable. Où le son est là, où le son n'est pas là. C'est vraiment au millimètre. Donc on fait un travail tous les deux, un petit peu d'horloger, de... Vous voyez, Philippe est en ce moment glorifié partout. Mais parce qu'il vient d'une autre planète. Parce que quand il chante, il est tellement humble, tellement vrai. Il chante avec son cœur. Et moi, je lui donne la grammaire. Donc, qu'est-ce que les deux réunis? Voilà ce que ça donne. Et le public est la bouche ouverte devant lui. Il ne fait pas un effet pour plaire. Il est intelligent et musicien.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Admiration, affection et plus encore, émotion devant les multiples facettes d'un talent, il est vrai, exceptionnel. Nicole Fallien, professeur de chant, parlait ainsi en 2007 de son élève surdoué, le contre-ténor Philippe Jaroussky, qui venait de graver cette année-là un CD époustouflant, Carestini, histoire d'un castrat, avec Emmanuel Haïm et son concert d'Astrée. Émotion et admiration, c'était bien également ce que nous avions ressenti alors à l'humeur vagabonde qui recevait pour la première fois ce jeune chanteur, alors trentenaire, à la voix d'ange, pure et sensuelle pourtant, d'une virtuosité vertigineuse et ce qui ne gâchait rien, formidablement simple et sympathique. 13 années plus tard, les mêmes, autour du même micro pour écouter cette musique qui, en ces temps difficiles, nous fait tellement, tellement de bien. Les années, ni le succès planétaire, ne semblent avoir altéré les qualités, ni la voix sublime de Philippe Jaroussky, même s'il a acquis une gravité nouvelle. On le sait, les temps sont durs pour les jeunes artistes dont il s'occupe dans son académie musicale gratuite qu'il a créée en 2017 et qui reçoit 75 étudiants. Avec d'autres, il se bat pour leur obtenir une indemnisation en attendant que les concerts reprennent. Lui-même a vu sa tournée annulée alors qu'il venait de sortir en novembre un nouveau CD chez Erato consacré aux oratorios italiens du XVIIe et XVIIIe siècle, intitulé « La Vanità del Mondo », gravé avec son ensemble Arta Serse. Parmi les airs de compositeurs aussi célèbres que Handel, Vivaldi, Scarlatti ou Caldara, certains sont gravés pour la première fois, les partitions ayant été exhumées par Philippe Jaroussky qui consacre beaucoup de temps à rechercher des trésors oubliés dans les archives. « La Vanité du Monde », un titre est là, toujours en accord avec l'époque. Bonsoir Philippe Jaroussky et bonne année, puisque nous sommes au tout début de cette année 2021.
Bonsoir, très bonne année Kathleen, voilà, très bonne année à tous les auditeurs.
Je vous la souhaite tellement meilleure que celle qui vient de s'achever.
On a tous l'espoir qu'elle soit forcément meilleure, bien sûr.
Voilà, en même temps c'est la quatrième fois que je vous reçois en 13 ans, ça va, c'est raisonnable.
Oui, ça va, je vous en remercie.
En tout cas, c'était intéressant de vous recevoir pour parler de ce disque qui nous montre votre inclination pour un genre baroque, toujours, mais qui est quand même différent. Ces oratorios, on a l'habitude de vous entendre dans les airs de gloire des opéras seria habituels. Et là, c'est à la fois la même musique, ce baroque qu'on aime tant, et en même temps, il y a, je disais, une gravité nouvelle, mais c'est peut-être dû aussi à l'importance soudaine du texte qu'il y a dans ces airs baroques.
Oui, le genre de l'oratorio, c'est un genre que j'ai curieusement peu abordé, alors que c'est un genre que j'affectionne énormément depuis mes débuts. J'avais commencé ma carrière au disque, notamment avec un oratorio de Scarlatti, Cedecilla, qui était dirigé par Gérard Laine. Et c'est vrai que, par exemple, ça fait plus de 20 ans que je chante et on dit souvent que j'ai une voix d'ange et que je suis parfois plus à l'aise dans le répertoire religieux que dans des rôles dramatiques qui parfois sont pas forcément les qualités première de ma voix. Et c'est vrai que dans l'oratorio, on pourrait dire qu'on est vraiment entre les deux. C'est-à-dire qu'on est sur des sujets religieux qui sont traités de façon un petit peu opératique. Alors des fois, ça reste très opératique, notamment dans les airs rapides. Et c'est vrai que dans les airs lents, j'ai l'impression que les compositeurs donnent parfois le meilleur d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on est plus dans le journal intime du compositeur, un peu comme dans les quatuors de Beethoven ou les sonates pour piano, que dans le show-off total et le et je pense que j'ai l'impression que dans les oratorios les compositeurs sont moins au service du castrat du moment qu'il faut faire briller sur la scène et sont plus contenus et il y a une sorte de style sévère qui est là pour justement dépeindre aussi, justement, c'est pour ça qu'on a appelé la vanité du monde, l'humilité de l'homme face à Dieu.
Alors, ce registre-là, ce choix des sujets, cette gravité, cette mélancolie aussi qu'il y a, c'est quelque chose qui vous ressemble davantage, mais qui est venu peu à peu. Peut-être que lorsque vous avez démarré, vous étiez aussi dans la joie d'arpenter ce répertoire baroque, dans le plaisir aussi des airs de virtuosité. Alors que là, on vous demande moins de virtuosité, c'est ça ?
Oui, moi évidemment, je suis instrumentiste de formation, violoniste, pianiste. Et quand j'ai commencé à chanter, j'ai tout de suite éprouvé, dès l'âge de 18 ans, un énorme plaisir physique. Et au conservatoire, on m'appelait la mitraillette parce que je faisais des coloratures très 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 vite. Voilà, tout ce qui était vocaliste, tout ça, c'était très facile pour moi. Mais en revanche, on m'a aussi très vite reproché, et probablement à raison, le caractère parfois trop instrumental de ma voix. Et ça manquait de profondeur, ça manquait aussi d'expression. Et ça, je l'ai énormément, énormément travaillé parce que des fois, en voulant être expressif, je me fatiguais la voix aussi. Donc il a fallu énormément d'années pour trouver une forme d'expression juste dans cette voix de contre-ténor qui puisse véhiculer tout simplement les sentiments des personnages.
Alors ce CD paru chez Erato s'appelle La Vanità del Mondo. C'est le titre de l'air de Pietro Tori que nous allons écouter maintenant. Is it gone? Sur ce CD, La Vanita del Mondo, dont nous parlons avec vous ce soir, Philippe Jarouski, il y a 11 airs enregistrés, plus 3 ouvertures, et parmi ces 11 airs, il y en a 5 en première mondiale, dont celui-ci, Pietro Tori, que nous ne connaissons pas, 1706 à Bruxelles, pour l'écriture oui. de La Vanita del Mondo. C'était un parmesan. Pietro Tori.
Oui.
Et c'est vous qui l'avez exhumé des trésors encore non exploités de la musique baroque. Vous, oui. vous y consacrez beaucoup de temps à ces recherches.
Oui, beaucoup de temps. J'ai croisé le nom de Pietro Tori justement en cherchant autre chose, parce que c'est ça qui est génial dans les recherches quand on les fait soi-même. Alors maintenant, l'avantage, c'est que quand j'ai commencé ma carrière il y a 20 ans, j'allais moi-même dans les bibliothèques. J'ai d'ailleurs la ferme intention d'y retourner, parce que c'est aussi toute une autre forme de recherche. Mais c'est vrai que maintenant, on peut chercher énormément de choses sur Internet. Il y a beaucoup de manuscrits qui sont digitalisés par les bibliothèques. Et c'est vrai que Pietro Tori, c'est un peu une inconnue pour moi, parce que il y a énormément de musique. C'est pratiquement autant de musique que Caldara ou Scarlatti. Et ça a été très très peu enregistré. Donc c'est ce qui me plaît dans le baroque, c'est qu'on a l'impression que ce répertoire est sans limite, comme s'il y avait encore des compositeurs qui créaient encore cette musique. Donc c'est très jubilatoire. Moi, ça m'arrive évidemment de tomber sur un air, je le lis une première fois, je l'entends en fait dans ma tête. Je me force à l'écouter dans ma tête, et puis j'en sélectionne, et puis quand vous le réécoutez 2-3 fois dans la tête et que vous êtes sûr d'avoir trouvé une petite pépite, c'est très...
Ça doit
très,
être
très
une jubilation formidable.
Ah, c'est comme, à mon avis, trouver une pépite d'or dans une mine, c'est vraiment très agréable, et du coup ça me donne aussi une énergie qui a été évidemment très frustré ces derniers mois de faire découvrir sur scène aussi ces musiques-là.
Alors Philippe Jarouski, vous nous le disiez au tout début de l'émission, en fait vous aviez déjà travaillé un oratorio et de Scarlatti, c'était en 1999 avec votre ami Gérard Lenne.
Le siècle dernier, ça me...
C'est fou, hein, c'est incroyable. Nous sommes des résistants. Voilà. Alors évidemment, sur ce disque, La Vanita del Mondo, il y a également, en hommage à cette première de Scarlatti en 99, un Scarlatti, c'est la Giudita. On va écouter un extrait de cette berceuse morbide, comme vous la qualifiez. C'est le moment où la nourrice essaye d'endormir Holoferne pour afin que Judith puisse lui couper la tête.
Thank you.
Un extrait de cette berceuse de la Giuditta de Scarlatti que vous avez gravé, enregistré avec votre ensemble Artaserse et Philippe Jarouski. En écoutant, on se rend compte à quel point, alors c'est absurde de dire que Scarlatti c'est des chefs-d'œuvre, ce sont forcément des chefs-d'œuvre, mais vous me disiez, c'est incroyablement moderne au début, cette succession de très petites notes, et on se rend compte à quel point c'est acrobatique pour ceux qui jouent les cordes.
Oui, ça demande beaucoup de concentration quand on passe une heure et demie à jouer ces notes répétées, c'est fatigant aussi pour les musiciens, et je trouve ça très moderne. Moi, je dis qu'il y a des compositeurs modernes et d'autres qui ne le sont pas. Et c'est pas une question d'époque. Et par exemple, par provocation, je pourrais dire que Mozart n'est pas vraiment un moderne. Monteverdi est un moderne, Scarlatti, des compositeurs, on va dire, qui ont considérablement fait évoluer le style. Handel n'est pas un moderne, puisque Handel a gardé un style finalement assez ancien, old school, jusqu'à la fin de sa carrière. Ça l'empêche pas d'être génial. Donc en fait, voilà, c'est ça qui me fascine, c'est Scarlatti a une influence considérable à la fin du XVIIe siècle dans l'évolution du style, l'évolution de l'air, de l'aria da capo, de tout. Il a mis vraiment en place énormément de choses. Et dès que vous ouvrez une partition de Scarlatti, c'est toujours intéressant.
Alors, toujours intéressant, d'autant plus que en mars 2021, vous devez, vous, Philippe Jarouski, diriger pour la première fois en public, on l'espère, un oratorio de Scarlatti avec votre orchestre, Artaserse, et la soprano Sandrine Pio à Versailles.
Exactement, à Versailles, et puis dans d'autres concerts à Metz. Et c'est vrai que je ferai mes débuts aussi à Salzbourg en mai, l'invitation de Cecilia Bartoli, donc je suis très heureux.
Cecilia Bartoli, votre rival.
Mon ami, rival peut-être, je sais pas, mais en tout cas, ça va être un vertige, parce que ça sera la première fois que je vais monter sur scène, sans faire une seule note de musique, avec ma voix, et donc c'est un nouveau challenge, et je pense que évidemment il va y avoir une émotion particulière. Je pense que je vais avoir beaucoup plus le trac finalement que quand je chante moi-même, parce que je mesure le fait que pour un chef, en fait, la pression n'est pas la même. Évidemment, quand vous êtes chanteur, vous vous réveillez, vous avez peur que votre voix ne suive pas le soir ou qu'elle soit moins en forme. Mais en tant que chef, c'est la responsabilité de tout le groupe. Vous êtes responsable de tout ce qui se passe sur scène et vous devez soutenir chacun de vos chanteurs. Alors évidemment, j'ai la chance d'avoir un merveilleux cast. Vous avez cité Sandrine Pio, il y a également Régimien Spicer, il y a mon collègue Christophe Dumont, avec qui on a commencé notre carrière pratiquement ensemble. Et puis, il y a aussi des jeunes, notamment Paul-Antoine Benoz, qui a fait partie de mon académie, et Yanis François aussi. Il y a vraiment... je me sens très très chanceux, et je suis aussi très chanceux que les salles me fassent confiance pour cette peut-être nouvelle carrière.
Alors Philippe Jarouski, dans le premier air qu'on a passé, vous jouiez le plaisir dans cet air de Pietro Torri, et là, grande surprise, dans ce nouveau disque, vous jouez carrément, vous chantez carrément, et ben Dieu.
Cadrò, verità, sotto i colpi del rigore, atterrò con impietà, atterrò, atterrò. Colpire il rigore, atterrò. sirena, sotto i colpi del rigore, atterrata all'impietà, atterrata, atterrata. I colpi del rigore atterrò.
Dieu sur le Sinaï, un dieu en colère, c'est signé Fortunato Kelleri. Et là aussi, Philippe Jaroussky, c'est un inédit.
Ah oui, un inédit complet. Moi-même, pour le coup, j'avoue que je ne connaissais pas ce compositeur dont on a peu de choses, mais dont la qualité musicale n'est pas à remettre en cause, on l'a pu voir. Et c'est vrai que c'est étonnant de se dire qu'à l'époque de l'oratorio italien, on n'hésitait pas à confier Dieu à une voix de castra, tout simplement. Et il y a énormément de livrets où il y a le personnage de Dieu, et d'ailleurs souvent aussi de Lucifer. Ça sera le cas d'ailleurs dans l'oratorio de Scarlatti que je dirigerai en mars. Et c'est très amusant d'ailleurs, parce que ça, de le faire aussi sur scène et de le faire en concert, parce que évidemment ça excite l'imaginaire du public, évidemment. Et ici, c'est amusant parce qu'évidemment, c'est un dieu qui commence. Alors, il y a un peu un mix. Il commence à donner les 10 commandements à Moïse. Et puis, tout à coup, il voit le peuple adorer le veau d'or. Et là, il se fâche. Et du coup, il chante ses terres. Donc, il y a quelque chose de presque... On est presque dans une BD, en fait, dans un cartoon, parfois. C'est ça aussi qui est amusant, de voir la distance peut y avoir.
Alors parlons des ornementations, justement quand vous découvrez comme ça des partitions inédites et que vous allez pouvoir les interpréter, là vous avez une extrême liberté. Et comment ça se passe pour les ornementations? Vous testez plusieurs choses, vous les écrivez?
Oui, alors je fais partie des chanteurs qui les écrivent eux-mêmes, sauf si je suis dans un opéra et que le chef me propose de m'aider, mais en général ce que je fais, c'est que j'en écris beaucoup. Trop en général, et puis je teste en répétition ce qui fonctionne ou pas, ce qui est de bon goût, ce qui ne l'est pas vraiment. Ça, c'est très subjectif, évidemment. L'ornement aussi au retour au da capo, au fameux da capo, au retour du début de l'air, c'est fait aussi pour que, je crois, le chanteur puisse montrer ce qu'il sait faire de mieux. Donc ça dépend de chaque chanteur, évidemment. Et l'idée, parfois même, c'est de gommer certaines difficultés du début pour en remettre d'autres qui sont plus dans vos cordes. Donc c'est une souplesse incroyable que nous offre ce style. Et c'est pour ça que je crois, d'ailleurs, que c'est intéressant que le chanteur, justement, apprenne à les écrire soi-même.
Alors, ce qui est intéressant dans ce CD La Vanita del Mondo, Philippe Jaroussky, c'est qu'il y a cette juxtaposition de compositeurs extraordinairement connus, Scarlatti bien sûr, Handel, et ces compositeurs qu'on ne connaît pas. Quand vous les avez choisis et installés sur ce CD, est-ce que pour vous, c'est pour qu'on les compare? Est-ce que c'est de la même qualité? Alors, on parle de Tori, oui, de Kelleri.
C'est vrai que c'est intéressant parce que finalement mes trois derniers albums baroques, je dirais, étaient dédiés à un seul compositeur. Il y avait Vivaldi, il y avait Handel, il y avait Cavalli aussi. Et ça faisait longtemps que j'étais pas venu à un disque comme celui-là, finalement presque depuis Carestini, en fait, où il y avait plein de compositeurs, évidemment. L'idée un peu de base, quand même, et c'est vrai que là, il se rapproche finalement assez de l'album Opéra Prohibita de Ciccia Bartoli, c'était de remettre effectivement en situation Handel. Donc il y a le fameux air Lascia la Spina, qui évidemment deviendra le Lascia che pianga de son opéra Rinaldo. Mais c'était pour montrer à quel point aussi Handel a été énormément influencé par déjà les deux géants de l'oratorio italien que sont Caldara et Scarlatti. Et puis après, effectivement, ce souci, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de trouver de la musique peu enregistrée ou pas du tout enregistrée, et donc d'aller fouiller et d'aller chercher un programme. C'est vrai que sur un programme, vous avez dit, il y a 11 airs, mais j'ai dû en présélectionner une cinquantaine, après réduire, essayer de trouver un équilibre. Je dis souvent qu'un album, c'est comme un parfum. Ça s'équilibre. L'ordre, c'est pareil, c'est quelque chose de fabuleux. On a dû faire 6 ordres différents. Et selon l'ordre des airs, vous écoutez pas du tout l'album de la même façon. Donc c'est ça qui est incroyable, c'est d'une richesse et c'est difficile de voilà, c'est même un ordre, c'est finalement assez subjectif.
Alors justement, en fonction de cet ordre sur ce CD-là, c'est quoi le parfum de cet ordre-là?
Alors le parfum, il est montré dès le premier air. Vous savez, dans la plupart des albums baroques, ceux de Cecilia, ceux de mes collègues contre-ténors, qui sont très brillants, dans beaucoup de mes disques baroques, on commence toujours un petit peu en fanfare. Alors, il y a toujours l'air de tempête ou l'air avec trompette. Et là, justement, j'ai choisi un inédit de Pietro Torri, qui est plutôt d'une grande douceur et d'une grande mélancolie, puisque c'est Isaac qui parle à Abraham avant que Abraham ne le sacrifie, et montre toute sa résilience. Et j'ai trouvé que ça donnait tout de suite une teinte très différente au disque, et ça, évidemment, ça indique que le disque ne va peut-être être moins virtuose que d'autres, mais va apporter peut-être quelque chose de différent.
Alors, vous l'avez dit, c'est Handel, le mastodonte de ses oratorios. Il a un peu copié, on va peut-être en parler. On va écouter cet air que l'on peut qualifier de tube, parce qu'on l'entend beaucoup dans les disques des contre-ténors, l'Ascia io pianga, et là, c'est le premier, c'est l'Ascia la spina.
Oh,
Jarosky, Handel était tellement content de ce qu'il avait écrit qu'il l'a recyclé plusieurs fois. Et d'ailleurs, il se recopiait lui-même, mais il n'hésitait pas à copier un peu ses camarades aussi.
Oui, surtout au tout début. Pour avoir beaucoup regardé des partitions, et par hasard, j'ai trouvé des fois des copies chez Kaiser, évidemment, qui est un compositeur assez méconnu, mais qui était vraiment génial. Telemann aussi, il a copié un peu sur Telemann, et Stéphanie aussi, probablement un compositeur qui a redécouvert aussi, notamment Cecilia. Et en fait, ça fait aussi tout le génie, parce qu'on se rend compte que beaucoup de compositeurs sont des éponges, en fait. Et ce qui est très intéressant, en tout cas, chez Handel, c'est quand il copie, il prend, on va dire, la base mélodique, puis après, il va transformer à sa sauce. Contrairement, par exemple, à Vivaldi, qui s'auto-plagie et qui va pas hésiter à remettre un air exactement le même dans un opéra en changeant juste le texte. Donc c'est, on peut dire que c'est pas des attitudes, c'est une attitude, on va dire, un petit peu plus, un peu plus légère, on va dire. Mais c'est ça aussi qui me plaît chez Vivaldi aussi, qui se targuait de composer un concerto plus vite qu'un copiste ne mettrait pour le recopier. Donc ça montre aussi la vivacité d'esprit de ces compositeurs.
Alors ce répertoire était évidemment celui des castrats, et c'est pas la même chose qu'être haute contre et chanter ce répertoire des castrats. En fait, quelle est la différence? Parce que moi je suis une béotienne absolue.
Oui.
Justement, pour un haute contre, est-ce que ça veut dire que dans ce répertoire-là, il y a des choses qui sont juste impossibles à chanter?
Disons qu'il y a des choses... Alors après, je trouve que dans ces dernières années, on a, en tant que nous contre-ténors, j'en ai fait partie, mais toute la nouvelle génération de contre-ténors qui arrive également.
Oui, j'ai dit haute compte, pardon, c'est non, contre-ténor.
On repousse de plus en plus les limites de ce qui est possible, notamment vers l'aigu. Et c'est vrai qu'il faut s'imaginer qu'un castrat, en fait, c'est une voix d'enfant à la base, évidemment, qui est préservée. Et on savait que, la castration fait qu'il y a un phénomène un peu comme, c'est un peu horrible à dire, un peu comme les animaux, c'est les animaux qui deviennent plus grands et plus gras. Hein, on a pour ça qu'on a ces caricatures où les castrats sont très très grands. Donc ils avaient une cage thoracique immense et des cordes vocales qui restaient de la taille de celle d'un enfant. Ce qui leur donnait la grosse différence, je crois aussi, en dehors du timbre, leur donner un souffle incroyable. Et on sait à quel point, en fait, un chanteur, qu'il soit un chanteur de pop, de jazz ou de classique, se met en général en danger quand il respire. C'est là qu'il va peut-être y avoir des tensions ou des blocages. Donc, ça devait donner... on a cet extrait dans le film Farinelli où cette femme s'évanouit, les femmes s'évanouissent quand il tient une note, mais il devait vraiment y avoir une impression chez le public de suffocation et de plaisir intense.
Alors, Philippe Jarosky, donc on a dit que bientôt vous alliez diriger et pas chanter un oratorio, ça sera, on l'espère, à Versailles, mais j'ai lu aussi que vous allez diriger, vous avez l'intention de diriger carrément maintenant un opéra.
Oui, alors je peux pas dire encore où, mais ce sera un opéra à Paris, un opéra de Handel, et ça sera la première fois que je dirigerai un opéra de 4 heures dans la fosse avec une mise en scène. Là aussi un énorme vertige, je pense que mon cœur va battre très très fort quand je vais descendre dans la fosse d'orchestre, et ça va être, je l'espère, une sensation agréable aussi, mais je pense que je serai épuisé en sortant, et je m'y prépare évidemment déjà.
Une nouvelle vie qui s'annonce pour vous, Philippe Jarosky. On vous la souhaite heureuse, longue, variée. On espère que vous allez encore chanter. Je vous ai reçu 4 fois, pourquoi pas une 5e?
Avec un grand plaisir.
Je nous le souhaite à tous les deux. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne année 2021, bien meilleure que celle que l'on vient de passer. Et à tous les auditeurs aussi. Et on va se quitter, non pas avec le générique de l'humeur vagabonde, mais avec un dernier air que vous chantez. C'est une autre Giuditta, c'est celle de Benedetto Marcello. Merci à vous, Philippe Jarosky.
Merci beaucoup de votre invitation.
Et très bonne route. Forte braccio e te.
Oh,